L'actualité des Alpes du Sud avec le vent qui a soufflé fort, très fort hier.
Le record a été enregistré sur la station de Saint-Auban, 132 km/h. De nombreux dégâts, de nombreuses interventions pour les pompiers. Un camping a été évacué à Perruy. 6000 foyers étaient privés d'électricité dans nos deux départements.
Carnet noir avec la disparition de Bernard Jean-Mé Peralta.
L'ancien maire de Manosque, ex-président de Durance-Luberon-Verdon agglomération, est décédé hier à l'âge de 84 ans. Adécias Bernard lui lance dans un dernier au revoir Jean-Christophe Pétrini, actuel président de l'agglomération.
L'appel à la grève des cheminots scandalise Arnaud Murgien.
Appel à la grève pendant les vacances d'hiver, alors que les syndicats redoutent la suppression de 16 postes sur la ligne des Alpes. Ils vont tuer nos stations et nos montagnes, dénonce le maire de Briançon.
Et après Monte-Carlo, direction Le Mans pour Sébastien Ogier.
L'octuple champion du monde des rallyes se lance dans une nouvelle carrière aux côtés de Lilou Hadou et Charles Milesi et il a hâte de commencer. Côté météo, attention, c'est encore fortement venté aujourd'hui.
Oui. Alors, sur l'Ubaye, la majeure partie des Hautes-Alpes, le temps est ensoleillé. Également sur les Alpes de Haute-Provence. Par contre, les secteurs proches des Alpes du Nord, les nuages continueront à déborder en journée, mais laissant cependant un petit peu de place aux éclaircies côté vent. Et bien, il y aura encore des rafales dans les vallées exposées. 60 à 80 km/h à 3000, 80 à 100 km/h. Localement, 120 km sur le dévoluit. Et le vent va se renforcer encore la nuit prochaine, entre 100 et 120 km/h et ponctuellement 140 km/h. On en parle du vent, bien sûr, il a soufflé fort, très fort, sur les Alpes du Sud.
Par certains endroits, c'était même plus fort que lors de la tempête de 1999. Par exemple, à Château-Arnoux-Saint-Auban, on a enregistré une rafale record de 132 km/h, plus forte qu'il y a 23 ans où le vent avait soufflé jusqu'à 122 km/h. Ailleurs, dans le département, les valeurs restaient aussi impressionnantes. 110 km/h à Valensole, 105 sur les hauteurs de Digne, 87 km en ville, 101 km/h au sommet de Chabanon. Les secteurs du Gapençais, du Buëch et de l'Avance ont été aussi particulièrement impactés dans le département voisin. 5000 foyers étaient privés d'électricité hier soir à 21h dans les Alpes d'Haute-Provence, 1000 dans les Hautes-Alpes, par exemple à Tallard. Les forts coups de vent ont provoqué la chute d'arbres sur le réseau électrique. Le centre-ville, la zone aéropole, Polyaéro, le chemin de l'aérodrome également n'avait plus de courant hier soir. Forcément, l'activité a été soutenue chez les pompiers. À Perruy, le camping municipal a été évacué après la chute d'un arbre sur un bungalow. 13 personnes ont été prises en charge et conduites dans la salle des fêtes. À Ongles, un poteau électrique sur le sol a obligé à couper la circulation. Du vent qui a aussi provoqué des incendies. L'un à Malfougas pour des broussailles, l'autre à Champtercier pour 200 mètres carrés de végétation. Et donc, pour ce mardi, le vent restera soutenu avec des rafales orientées au secteur nord à nord-ouest pouvant atteindre 55 à 70 km/h en moyenne, voire parfois 90 km/h. La prudence reste donc encore de mise.
Dans le reste de l'actualité, la femme recherchée depuis plusieurs jours dans le Briançonnais a été retrouvée morte.
Une information de la télé locale BFM D6, son corps a été découvert hier à la mi-journée dans une forêt. Cette quadragénaire fragile psychologiquement avait quitté dans la nuit de mercredi à jeudi dernier l'établissement de soins dans lequel elle était hospitalisée à Briançon. Une autopsie sera menée sur le corps de la victime.
Et le monde politique basalpin se retrouve orphelin ce matin après l'annonce de la disparition de Bernard Jean-Mé Peralta.
L'ancien maire de Manosque, ex-président de Durance-Luberon-Verdon agglomération, est décédé hier après-midi à 84 ans. Il était hospitalisé depuis plusieurs jours à Marseille. Pendant 19 ans, cet ancien chef d'entreprise avait pris les rênes de la cité de Giono avant de renoncer à se représenter en 2020. Lors de ces élections, il avait d'ailleurs ouvertement soutenu son ancien adjoint, Armel Le Hen. Finalement, les urnes avaient donné vainqueur Camille Galtier, l'actuel édile de Manosque, qui annonce mettre les drapeaux de la ville en berne pour une durée illimitée. Alors l'un des premiers à réagir hier soir, c'était le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui saluait la mémoire d'un maire emblématique et aimé de ses concitoyens. Un homme résolument engagé, sincèrement passionné pour sa ville, selon la présidente du conseil départemental des Alpes d'Haute-Provence, Eliane Bareille. Daniel Spagnou, maire de Sisteron, président de l'association des maires du département, rappelle aussi le chef d'entreprise que Bernard Jean-Mé Peralta était, un bon maire, un fervent défenseur de nos causes communes au RPR puis à l'UMP. Le sénateur Jean-Yves Roux salue aussi l'homme d'engagement et de conviction passionné par sa ville avec qui j'avais grand plaisir à échanger. Adésias Bernard lui lance dans un dernier au revoir provençal Jean-Christophe Pétrini, l'actuel président de Durance, Luberon, Verdon, agglomération. L'élu souligne l'exemple qu'a été Bernard Jean-Mé Peralta. Avec le cœur serré, il rappelle les valeurs qu'il partageait autour du partage, de la solidarité, du vivre ensemble et de l'acceptation de la différence. C'était un bâtisseur, un visionnaire d'un enthousiasme permanent qui ne souhaitait que le bien autour de lui. Un hommage sera rendu dans les jours prochains sur le territoire de l'agglomération.
Volet judiciaire dans ce journal, et alors que les Hautes-Alpes ont noté une hausse de la délinquance l'an dernier, mais l'activité pénale s'est révélée stable pour les Alpes de Haute-Provence.
En moyenne, il faut savoir qu'environ 10 000 procédures sont enregistrées par an auprès du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Toutefois, point noir dans ce tableau, les déferments, c'est-à-dire les procédures d'urgence, qui ont augmenté de plus de 2%, et en particulier pour des faits de violence conjugale ou intrafamiliale ou des cambriolages. Si le tribunal reste en sous-effectif, selon le procureur Rémi Avon, 3 magistrats contre 19, si l'on appliquait la moyenne européenne pour 100 000 habitants, il se félicite d'un point, les délais de traitement ont été considérablement raccourcis.
Si nous comparons la situation il y a 2 ans, juste à l'entrée de la crise sanitaire, où les délais de convocation devant le tribunal correctionnel étaient compris entre 10 et 14 mois, ceci au bout de 2 ans d'un travail acharné à la fois du parquet et du siège, a abouti à une effective réduction des délais, puisque nous sommes aujourd'hui dans des délais compris entre 1 et 5 mois. C'est dire le chemin parcouru, grâce notamment à une politique de réorientation des procédures pénales, où tous les dossiers ne sont plus renvoyés devant le tribunal, mais nous utilisons toutes les ressources que la loi nous offre sur les procédures alternatives, les ordonnances pénales, ou encore la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Bref, de nouveaux outils récemment ou moins récemment créés par la loi, qui ont été pleinement investis pour essayer de redorer le blason de l'audience, faire en sorte que les procès se tiennent dans des délais plus courts, et c'est un objectif atteint ce jour.
Rémi Avon, micro Alpe 1, de Michel Bonnefoy.
Eux comptent bien faire pression en faisant grève lors de la période la plus touristique. Les cheminots appellent au mouvement pendant les vacances d'hiver.
Ils veulent faire plier la SNCF et le conseil régional qui ambitionnerait de supprimer à terme 16 postes sur la ligne des Alpes. Des préavis de grève reconductibles sont donc annoncés pour les vendredis et samedis dès le 11 février ainsi que les 2 autres week-ends des vacances. Un appel qui scandalise le maire de Briançon, Arnaud Murgial. Les syndicats menacent de tuer la saison d'hiver dans les stations de ski des Alpes du Sud. C'est irresponsable, déclare l'édile. Il est rejoint par Renaud Muselier qui reproche lui carrément aux organisations de faire de la politique en pleine campagne présidentielle et de sacrifier les montagnes. S'il ne dit pas que ces 16 postes ne seront pas supprimés, le numéro 1 de l'hémicycle marseillais rappelle cependant qu'aucune gare ni aucune ligne ne sera fermée. Quant à la ligne des Alpes, elle sera préservée avec le maintien d'une ouverture 7 jours sur 7 des principales gares de Gap, Embrun, Mont-Dauphin, L'Argentière, l'ABC et Briançon.
Autre secteur qui veut faire entendre sa grogne, le social et le médico-social, appelé à descendre dans la rue ce mardi.
Un secteur qui subit une crise sans précédent selon les professionnels et qui souffre depuis plusieurs années d'un manque d'attractivité de ses métiers entre conditions de travail dégradées, manque de valorisation salariale. La situation s'est aggravée avec le Covid-19 car ces professionnels ne bénéficieront pas du Ségur, cette revalorisation accordée par le gouvernement pour les métiers de la santé en première ligne lors de cette crise sanitaire. La profession est proche du burn-out aujourd'hui, selon Damien Scano. Il est directeur de la DSEA dans les Alpes-de-Provence et aussi délégué régional de la CNAP, la Fédération d'associations dans la protection de l'enfance.
Ils sont beaucoup plus malades. Durant cette période, à juste titre, nous avons mis les soignants au devant de la scène, mais en second rang, il y a eu plus d'un million de salariés de l'invisible qui accompagnent au quotidien 10 millions de nos concitoyens, 15% de notre population, c'est le champ du social, du médico-social, qui accompagne les personnes handicapées, les enfants, les femmes victimes de violences, les personnes âgées. Tous ces personnels sont restés au front, mobilisés pendant cette période, sans aucune revalorisation. Et le Ségur a aggravé cette situation, parce que le Ségur bénéficie aux soignants du social et du médico-social, ce qui va créer une rupture d'équité dans nos établissements. Demain, un cuisinier dans un établissement financé par l'État au titre de l'assurance maladie, va avoir la revalorisation du Ségur, donc 198 euros de plus net par mois. Le même cuisinier, dans une maison d'enfants à caractère social, qui n'aura pas cette revalorisation.
Un SOS dans le social qui donnera lieu à un rassemblement ce mardi à Digne-les-Bains dès 10h devant le conseil départemental.
Gap, Digne-les-Bains et Briançon dans le ventre mou du classement des villes où il fait bon vivre.
Pour son troisième palmarès annuel publié dans le journal du dimanche, l'association Ville et Village où il fait bon vivre a analysé 34 827 communes au travers de 187 critères répartis en 9 catégories comme la qualité de vie, la sécurité, la santé ou l'attractivité immobilière. Une méthodologie qui n'a pas vraiment souri à nos trois principales villes des Alpes du Sud. Gap est la mieux classée en pointant à la 207e position, perdant même deux places par rapport à 2021. Baisse plus conséquente pour Briançon qui passe de la 408e place à la 440e. Seul Digne-les-Bains monté dans le classement en gagnant 9 rangs et une 303e place position. Notez qu'en parallèle, on ne retrouve aucun village local dans le top 500. Et si vous voulez retrouver ce classement, direction le site de l'association.
Suivez les Jeux Olympiques d'hiver avec Alpe 1.
Et avec Nils Allègre à la recherche du temps perdu à Pékin.
Après une belle saison 2020-2021 et notamment cette quatrième place au Super-G de Garmisch-Partenkirchen qui est aujourd'hui son meilleur résultat en carrière, cet hiver est bien moins réjouissant pour le haut alpin. Le skieur de Serre Chevalier n'a en effet qu'une 11e place à Beaver Creek à se mettre sous la dent. Suffisant pour composter son ticket pour ses premiers JO, mais assez peu pour faire le plein de confiance. Conscient qu'il ne se présente pas dans les meilleures dispositions, Nils Allègre ne se cherche pas d'excuses et mise sur la qualité première du skieur, l'adaptabilité pour qui sait créer l'exploit.
C'est une saison un petit peu plus compliquée pour moi cette année. J'ai été blessé dans la fin de ma préparation au mois d'octobre. Je me suis blessé une nouvelle fois au dos, donc j'ai dû composer avec ça, prendre 2-3 semaines d'arrêt, louper le début du stage aux États-Unis. Ensuite, j'ai eu un autre petit souci avec en attrapant ce virus. J'étais donc cloué dans mon appartement aux États-Unis sans pouvoir aller à l'étape de Coupe du Monde d'après. Donc, c'était, ouais, je sais que j'ai pas fait beaucoup de kilomètres à début de saison. Je me suis pas beaucoup entraîné. Bah, forcément, ça se paye, hein. Sinon, on s'entraînerait pas, quoi. Donc, voilà, je sais aussi d'où ça vient. Il y a quelques réglages sur mon matériel que j'ai pas pu faire. C'est pas les meilleures dispositions pour performer. Mais maintenant, je me cache pas derrière ça. La roue va forcément tourner à un moment donné, en tout cas je l'espère. Et puis voilà, je vais donner le maximum sur ces courses, j'espère donner mon meilleur et performer voilà, comme je l'ai fait les années précédentes.
Parti en Chine vendredi, le programme du haut alpin se regroupe au tout début de ces deux semaines olympiques. Assuré de prendre le départ Super G, le Briançonnais s'élancera le 8 février pour aller chercher une médaille. Encore incertain en ce qui concerne sa participation pour la descente, Nils Allègre devra pour le coup être prêt encore plus tôt. Il s'agira de la première course de ski alpin des JO le 6 février.
Et on termine avec Sébastien Ogier après Monte Carlo. Il prend la direction du Mans.
C'est en quelque sorte un secret de polichinelle qui est officialisé avec la participation du haut alpin à l'édition 2022 des 24 heures du Mans. En quittant le circuit mondial des rallyes, même s'il participe à quelques courses comme le Monte Carlo, qu'il a terminé à la seconde place après un duel acharné avec Sébastien Loeb, le Champs-Sorin met ainsi les deux pieds dans l'univers de l'endurance auto. Et quoi de mieux que cette course légendaire sartoise pour relever ce défi à hauteur du talent de l'octuple champion du monde WRC. Sébastien Ogier s'élancera en catégorie LMP2 avec le Richard Mille Racing Team aux côtés de Lilou Wadou et Charles Millési. Il se dit hâte de commencer hein, cette nouvelle carrière. Notez finalement que le haut alpin sera au centre d'un documentaire exclusif qui retrace sa carrière et son dernier titre de champion. C'est à découvrir dès ce mardi sur Apple TV.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.